18h, passé de 15 minutes à Niamey, l'heure du forum d'Issidio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Les programmes d'Issidio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Kouaratagi FM 99 MHz et Challenge FM 87.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangou s'intéresse à la problématique de la scolarisation des filles au Niger. Le 5 décembre dernier, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Un communiqué issu de cette réunion apporte que la scolarisation de la jeune fille au Niger se caractérise par des disparités selon les cycles d'enseignement. Ainsi, au niveau de l'enseignement primaire, le taux d'achèvement des garçons a connu une évolution remarquable, passant de 40,7% en 2006 à 87,4% en 2016. Pour la même période, le taux d'achèvement des filles a évolué de 25,8% à 69,5%. Avec nous dans ce studio pour développer ce thème, Hassan Amadou Soumana, représentant la direction de la promotion de la scolarisation des filles au ministère de l'enseignement primaire. Hassan Amadou Soumana, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Mokhtar.
Avec nous également Enous Hassan Diori, représentant les ONG et associations qui militent en faveur de l'éducation pour tous à SOEPT. Enous Hassan Diori, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Mokhtar.
Nous avons en ligne depuis Guidamrungi, région de Maradi, Madame Adiza Adam Alio, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidamrungi. Madame Adiza Adam Alio, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, chanter le regretter. Cependant, cet adage est compromis au Niger par plusieurs facteurs qui freinent la scolarisation de la jeune fille. En effet, les femmes représentent plus de la moitié de la population nigérienne, estimée à plus de 18,3 millions d'habitants en 2014. Malgré ce poids démographique, on constate une disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. Le milieu rural représente 85% de la population totale pour 15% seulement des taux de scolarisation. Malgré les efforts consentis par l'État et de ses partenaires, cette situation persiste encore. Cette sous-scolarisation s'explique par le fait que les parents préfèrent envoyer à l'école les jeunes garçons plutôt que la fille qui doit aider sa mère dans les tâches domestiques et les travaux champêtres. Il y a également les pesanteurs sociaux culturelle qui voit mal la scolarisation de la jeune fille. Pour les communautés à la base, la place de la jeune fille est au foyer. Dans d'autres localités, la petite est orientée vers le petit commerce ou envoyée dans les grandes villes pour servir de petite bonne ou donner un mariage précoce. Hassan Amadou Soumana, de la Direction nationale de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire. Existe-t-il d'autres causes qui expliquent le faible taux des filles scolarisées au Niger?
Oui, effectivement. D'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de répondre à votre sollicitation au niveau du studio Kalangou. Parmi les causes, effectivement, il y en a plusieurs. Elles sont de diverses origines. Parmi ces causes, on peut citer notamment celles que vous avez citées, notamment le travail que les filles font au niveau de leur famille, donc les tâches domestiques. Nous avons aussi d'autres causes qui sont d'ordre institutionnel. Et parmi ces causes-là, il y a une qui vient d'être réglée avec la signature du décret 2017-935 du 5 décembre 2017. Parce que c'est un problème qui est là. À chacune de nos missions terrain, les acteurs nous revendiquent, nous réclament ce dispositif qui va permettre de prendre en charge la fille en cours de scolarité, de lui garantir, de lui assurer une éducation, une protection, afin que vraiment elle puisse véritablement aller à l'école. En dehors des causes même que vous venez de dire et celles que je viens d'ajouter, il y a également le fait que les parents, comme vous l'avez dit, préfèrent envoyer dans certaines régions, bien sûr, parce que c'est pas à tous les niveaux. Dans certaines régions, c'est le cas notamment de Difa, où la fille qui est envoyée au niveau de l'école et le garçon, on préfère l'utiliser à d'autres fins. Donc, il y a bien d'autres localités aussi dans lesquelles c'est comme ça. Parce que nous venons de sortir d'une campagne de vulgarisation de ce décret qui est pris en Conseil des ministres le 5 décembre 2017.
Et que dit concrètement ce décret avant de continuer?
Bon, effectivement, ce décret parle de la protection, du soutien et de l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité.
Concrètement, comment c'est fait ce soutien?
Bon, le soutien, c'est à travers des mesures que l'État aura à prendre pour garantir la sécurité, la santé et l'éducation des filles.
L'État a tous ses moyens?
L'État va se donner ses moyens. L'État sera accompagné aussi par les PTF que vous avez, dont vous avez fait mention dans votre introduction.
Hassan Amadou Soumana, de la direction de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire. Vous l'avez dit, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, la situation persiste, surtout en milieu rural. Comment expliquer le faible taux de scolarisation des filles au Niger en ce 21e siècle?
Cela est dû, comme vous l'avez dit, à plusieurs facteurs. Il y a les causes qui sont socio-culturelles, il y a les causes institutionnelles, il y a aussi, par exemple, vous avez parlé du cas de Maradi. Certains pensent que la fille n'a pas le droit d'aller à l'école. Donc c'est une mauvaise interprétation en réalité des préceptes de l'islam qui est faite à ce niveau. C'est pour cela que l'État a toujours rappelé à travers notre direction et les autres structures déconcentrées que la fille, elle a le même droit à l'éducation. C'est l'une des dispositions de la Constitution 1. Et aussi, notre cadre de référence qui est le PCF.
Le PCF,
c'est un programme sectoriel de l'éducation et de la formation dont l'un des axes stratégiques vise la réduction des disparités au niveau de l'éducation, donc la réduction des disparités entre les sexes, donc filles et garçons.
Hassan Amadou Soumana, ils sont nombreux les parents qui pensent que l'école est un facteur de déstabilisation de la fille. Pour eux, le destin d'une fille est de devenir une bonne femme pour son époux et une bonne mère pour ses enfants. Comment faire pour amener ces parents à comprendre l'importance de la scolarisation des jeunes filles?
Par rapport à cet aspect, il y a un hadith qui dit que « kulukum ra'in kulukum mas'oulun an ra'atihi ». Nous serons jugés par les actes que nous aurons posés. De toute évidence, le droit à l'éducation, ce n'est pas les textes consacrés de notre pays seulement qui le garantissent, mais aussi c'est un devoir religieux. Donc, on a demandé à chacun d'aller chercher le savoir, même si c'est en Chine. Aussi, par rapport à cet aspect-là, que ce soit la fille ou le garçon, chacun de ces sexes a le droit à l'éducation. L'instruction, elle est très importante pour le développement d'un pays. Et rien que pour sa propre prise en charge, par exemple, et aussi de sa famille et celle de la communauté et le pays en général, on aura besoin de cette composante féminine-là pour faire avancer les indicateurs.
Donc, c'est pour donner le sens à ce adage qui dit qu'éduquer une femme et éduquer toute une nation.
C'est tout à fait vrai et normal parce que la femme représente dans notre pays plus de 50% de la population. Et quand on dit qu'on va essayer de développer le pays sans cette composante, alors je crois que ça ne pourra pas marcher comme ça.
Madame Hadiza Adam Alio, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidamlumji. Au Niger, la région de Maradi fait partie des régions où le taux de scolarisation des filles est l'un des plus faibles. Quelle est la situation exacte de la scolarisation de la jeune fille sur place à Maradi, madame?
Donc, si par exemple nous prenons le département de Guidorumji, le département que je coiffe moi-même, donc le département de Guidorumji, il comprend 5 communes, à savoir la commune de Tubiri, Chadokori, Guidensori, Saï Sabwa et Guidorumji en question. Donc, les filles fréquentent l'établissement, oui, ils fréquentent, mais le problème en est que même si ces filles-là partent à l'école, à un certain moment, à un an, deux ans, elles abandonnent l'école. L'année passée, nous avons enregistré 11 468 filles qui ont fréquenté l'école dans la commune de, dans le département de Guidorumji. Mais il y a eu pas mal de redoublements, pas mal d'abandons, pas mal de mariages. Et tout ça, c'est dû au problème de la scolarisation de la jeune fille. Le petit commerce dans la ville de Maradi influence tout. La petite fille, dès qu'on la met à l'école, on lui pose des petits commerces à tour et à travers. Elle n'a même pas le temps pour réviser. Deuxièmement, il y a les tâches domestiques. Ces tâches-là empêchent aux filles de travailler. Certes, on n'a pas empêché aux filles d'aider les parents, mais quand même que les parents savent qu'il y a des moments où les filles doivent travailler. Mais aussi à la mauvaise influence, parce que vous savez, on est dans un pays religieux. Il y a des parents qui sont là, ils ont un œil là-dessus. Ah, comment est-ce que vous allez laisser votre fille aller à l'école, sachant que la fille, son rôle, c'est de rester au foyer. Vous voyez? Ou bien si quelqu'un a une fille, ta fille s'est mariée, elle a déjà deux enfants, toi tu laisses ta fille à l'école avec le même âge que l'autre. Ce sont là d'énormes aspects qui font en sorte que les filles ne fréquentent pas l'école ou bien abandonnent l'école à un certain moment.
Hadiza Adam Alio, est-ce que vous avez cherché à savoir réellement les causes de l'abandon?
Oui, on a cherché à savoir parce qu'on a l'habitude de sillonner ces communes-là pour des sensibilisations. Et à chaque instant, quand on demande aux parents qu'est-ce qui fait en sorte que même si la fille aille à l'école, elle quitte l'école. Premièrement, les parents disent la pauvreté. Et on sait qu'on est dans un pays où il y a la pauvreté, mais quand même, la pauvreté, là, ils disent pauvreté, pauvreté. Tout le monde est pauvre, mais il faut savoir gérer. Ils disent la pauvreté. Ils disent qu'ils n'ont rien à manger, il faut que les filles là fassent le petit commerce. On leur a dit que ce n'est pas interdit, mais quand même que ça ne soit pas aux heures de cours. Et qu'il faut qu'ils permettent à cette fille de réviser. Secondo, ils disent encore que, ah non, la religion veut à ce que la fille se marie que de fréquenter l'école. Certes, la fille, elle est appelée à se marier, mais quand même, quand elle n'est pas éduquée, elle est appelée à éduquer son foyer aussi. Donc, vous voyez.
Donc, Madame Hadiza Alio, ce sont les parents qui ne s'impliquent pas véritablement pour une meilleure prise en compte de la scolarisation de la jeune fille sur place à Maradi.
Exact. À chaque instant, eux, ils croisent les bras pour dire qu'ils attendent une aide venant de l'État. Et si on dit que tout le monde va rester attendre l'État, s'il vous plaît, quand même, on doit se débrouiller quand même.
Madame Hadiza Adam Alio, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidorumji, face au poids de la religion et les pesanteurs socio-culturels que vous venez là d'évoquer, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez sur le terrain pour convaincre les parents d'envoyer massivement les filles à l'école?
Bon, ici dans le département de Guidorumji, au tout début nous avons eu des problèmes parce que les parents disent que nous, c'est parce qu'on est là, on est devenu un peu majeur, on veut assez que eux, ils abandonnent leurs enfants, sachant que voilà ce qu'ils ont fait. Mais à chaque instant, on a l'habitude de prendre l'exemple sur nous-mêmes. C'est parce qu'on a fréquenté qu'on est là devant vous. Donc, vous voyez, l'école a vraiment un énorme avantage. Deuxièmement, vous, les parents, vous avez l'habitude de dire que les parents ont l'habitude de dire que les hommes ne vont pas toucher leurs femmes à l'hôpital ou quelque part. Donc, dans ces cas, si vous retenez vos filles à la maison, comment est-ce que ces filles-là vont venir étudier, devenir quelqu'une dans le futur jusqu'à vous épauler? Mais à chaque instant, on a des difficultés, mais quand même, ils arrivent à comprendre maintenant.
Inoussa Hassan Diori, représentant les ONG et associations qui militent en faveur de l'école pour tous à ce EPT. Comment votre structure aborde-t-elle la question de la scolarisation de la jeune fille?
Bien, merci Monsieur Mokhtar. Et il faudrait rappeler que ASSO-EPT plaide essentiellement pour l'éducation de qualité inclusive. Et ça, et au-delà des jeunes filles, il y a les autres couches vulnérables qui sont également concernées par nos activités. Dans ce cadre précis, nous sommes épaulés par une ONG internationale nommée Plan Niger, donc qui intervient dans deux localités, notamment la région de Tillabéri et de Dosso. Donc nous avons un premier programme qui porte sur 3 ans et qui nous amène donc à agir dans le cadre de la protection des jeunes filles à l'école. Parce que quand on parle de scolarisation, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Donc plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc par rapport à effectivement la protection de la fille.
Donc ça veut dire qu'avant même le décret pris en conseil des ministres le 5 décembre déjà, votre ONG était en avance.
Non, effectivement, ça fait des années que nous sommes dessus. Donc nous continuons effectivement et nous continuons à rechercher donc des structures internationales pour nous aider dans ce sens. Donc j'ai parlé tantôt de Plan Niger. Nous avons donc un premier programme triennal qui permet donc de lutter contre la violence, donc la protection des filles au niveau de l'école. Et par rapport à ça, je disais, nous avons un certain nombre d'activités que nous entreprenons. Donc nous faisons des débats télévisés, des séances de sensibilisation publique. Nous produisons effectivement des supports aussi de sensibilisation sur la scolarisation de la fille. Nous faisons des émissions radiophoniques avec les radios communautaires dans la région de Tillabéri et de Dosso. Et également, nous avons un autre programme quinquennal, toujours avec Plan. Cette fois-ci, il concerne Ibrahim Mafarha.
Ibrahim Mafarha, ça veut dire quoi concrètement en français?
Bon, que les femmes soient vraiment
joyeuses.
Joyeuses, voilà. Que les femmes soient joyeuses. Alors, par rapport à ça, là également, nous avons entrepris des formations des enseignants sur la protection de la fille à l'école, des sensibilisations des parents également pour inscrire leur fille à l'école, et également des émissions communautaires, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons également participé à la mise en place des gouvernements scolaires, parce que c'est une organisation.
Gouvernement scolaire, ça veut dire?
Gouvernement scolaire, c'est une structure scolaire composée au niveau des établissements, notamment des élèves qui ont des responsabilités, comme un gouvernement, avec un ministre, un président, un premier ministre, etc. Donc ce gouvernement scolaire est chargé, en tout cas, de bien conduire les activités au niveau de l'établissement où il fonctionne. Donc il s'occupe de tout ce qui concerne la vie des élèves au sein de l'établissement. Donc s'il y a des problèmes avec l'enseignant, s'il y a des problèmes au niveau des élèves même, des problèmes avec les parents, le gouvernement scolaire est chargé donc de gérer cette question avec les personnes indiquées, donc ou les directeurs de l'école ou en tout cas les autorités de la région. En tout cas, ils ont des fonctions, des tâches bien précises. Alors nous avons participé, comme je le disais, à la mise en place donc dans certains établissements, notamment dans la région de Dosso et de Tillabéri, des gouvernements scolaires.
Loussa Sandiori, sans vous couper, est-ce que les parents d'élèves sont associés dans vos activités?
Oui, bien sûr. Et j'ai dit tout à l'heure, on sensibilise les parents d'élèves. Je l'ai dit tout à l'heure. Et la sensibilisation, c'est par rapport justement à la scolarisation qu'ils acceptent d'inscrire leur fille à l'école. Donc nous allons dans ce sens avec les parents. Bien sûr, nous avons d'autres activités parallèles qui concernent toujours l'éducation avec les parents d'élèves. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça pour l'instant parce que nous sommes sur la scolarisation de la fille. Et également, il y a la formation des encadreurs, des élèves maîtres au niveau de l'école normale pour justement aller dans le sens d'endiguer la violence donc faite aux filles, basée sur les genres, comme on l'a dit, et de manière à garantir un environnement sain aux jeunes filles scolarisées et faire la promotion donc de la fille à l'école. Voilà, et de manière ramassée, ce que nous faisons en ce qui concerne ASSO-EPT.
Inoussa Sandiori, représentant ASSO-EPT. ASSO-EPT, ce sont les organisations et associations qui militent en faveur de l'école pour tous. Quelles sont les actions que mène ASSO-EPT dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille dans tous les pays entiers?
Bon, disons, j'ai donné l'exemple précis du financement donc du Plan Niger, parce que Plan Niger n'intervient que sur les deux régions, Dosso et Tillabéri. Bon, au-delà donc de Plan Niger, nous avons nos propres activités qui sont financées par d'autres structures. Nous faisons des caravanes, généralement, et nous prenons un axe qui porte plusieurs départements et nous arrêtons donc au niveau de plusieurs établissements et même de plusieurs régions pour faire des activités qui portent sur l'éducation, notamment des sketchs. Nous allons avec des artistes comme Yingri Lompo, nous avons l'habitude donc de l'amener dans notre caravane et on lui donne des thèmes bien précis concernant l'éducation. Il prépare et il réalise, donc il anime les soirées là où nous passons la nuit généralement donc au cours de cette caravane. Au cours de la caravane également, nous faisons des débats, nous faisons des sketchs, des théâtres, tout ce qu'il faut en tout cas, allant dans le sens donc de la promotion de l'éducation. Bien sûr, en ce qui concerne l'éducation de la fille, de la jeune fille, la scolarité sortir la jeune fille. On n'a jamais oublié cet aspect parce que c'est un aspect aujourd'hui qui préoccupe tout le monde. Et pour preuve, vous venez de parler d'un décret qui a été pris par l'État allant dans le sens d'assurer la protection de la jeune fille, parce que la protection est un aspect important de la scolarisation de la fille. Il ne s'agit pas de tout simplement inscrire la fille à l'école, mais il faut créer un environnement qui lui sera favorable, notamment la question des violences. Il y a beaucoup de violences sur les filles parce que si elles sont avec des garçons, donc on peut se rencontrer à beaucoup d'écueils qui peuvent jouer sur la scolarité de la fille. Quand on parle tout à l'heure, tantôt de démission, bon, ces aspects peuvent être des aspects qui peuvent être à la base donc de la démission de la fille à l'école. Et il y a beaucoup d'autres aspects, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut protéger la fille à l'école. Et protéger la fille à l'école, ça va au-delà de la fille elle-même. Les parents, tantôt on a parlé des petits commerces. Mais les petits commerces, c'est parce qu'effectivement, il y a la pauvreté. Et pour pouvoir permettre aux parents de laisser leur fille à l'école, il faut venir en aide à ses parents. Il faut pallier à certains besoins qui sont de nécessité vitale pour les parents de manière à ce qu'ils puissent mettre fin à ce petit commerce qui est très préoccupant pour, en tout cas, les jeunes filles par rapport à leur scolarité. Donc moi, je pense qu'il y a un support assez important qu'il faut apporter à ses parents, notamment parce qu'on a dit que c'est dans les villages qu'on rencontre ça, donc des gens qui sont pauvres. Surtout cette année, vous avez vu, les récoltes, elles sont minables. Cette année, il y a la famine qui est en train, en tout cas, de gagner. Vous voyez déjà le mouvement de population à Niamey. Donc c'est un aspect assez important. Pour mettre en exercice ce décret-là, l'État doit prendre des dispositions, en tout cas, assez conséquentes pour faire face donc, à ces problèmes qui peuvent avoir un impact négatif sur la scolarisation de la fille.
Tout à l'heure, Hassan Amadou Soumana, qui est le représentant de l'État, l'a dit. L'État a pris des mesures à travers le décret pris en Conseil des ministres le 5 décembre dernier. Est-ce que, selon vous, vous qui êtes les ONG et associations qui militent en faveur de l'école pour tous, est-ce que ce décret n'est pas venu tard, comme on l'a dit?
On a l'habitude de dire il n'est jamais trop tard de bien faire. C'est vrai que la question de la scolarité, elle devait être examinée il y a longtemps de cela, mais aujourd'hui un décret est tombé. Bon, moi je dis que c'est déjà une bonne chose, mais le tout n'est pas d'avoir un décret. Le tout est de se faire les moyens de pouvoir donc tenir compte de ce qui a été inscrit dans le décret. Parce que aujourd'hui, quand on parle de la scolarisation de la jeune fille, je viens de parler tantôt des effets qui sont autour de ça, notamment la question de pauvreté. Aujourd'hui, c'est un grand écueil. Je ne sais pas comment l'État va pouvoir faire face à tout ça, mais peut-être qu'il va commencer à le faire. Mais je suis certain que c'est une très grande tâche. Il va falloir réunir beaucoup de moyens pour pouvoir, en tout cas, subvenir aux petits besoins qui font que dans des régions, et notamment comme Maradi, où on met en avant beaucoup le commerce, donc mettre fin aux petits commerces donc, qui sont faits et à travers les filles et qui sont à l'école. Donc là, je sais que ce n'est pas facile pour faire face à tout ça. Bon, je souhaite que l'État ait les moyens là, de pouvoir en tout cas faire face à cette difficulté, qui est une difficulté en tout cas majeure.
Hassana Amadou Soumana, représentant la direction de la promotion de la scolarisation des jeunes filles au ministère de l'enseignement primaire, vous venez là d'écouter les deux intervenants. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Bien sûr, monsieur. Rapidement. Mokhtar, merci. Effectivement, je vais par rapport à la préoccupation de madame. Effectivement, parmi les causes qu'elle vient de citer, ce sont des causes économiques, socio-culturelles. Elle a parlé de religion, c'est ce que j'avais évoqué lors de mon intervention. Ça fait partie des mauvaises interprétations des préceptes de l'islam, tout comme la pauvreté qui est une cause économique. Donc l'utilisation des filles également. Maintenant, par rapport à tout cela, l'État a pris, comme je l'avais dit tantôt, une disposition
donc,
qui
tout
est là.
Donc toutes ces mesures sont contenues dans ce décret.
Dans le décret, oui, effectivement, parce qu'on a
pris en Conseil des ministres.
Tout à fait, parce que dans le décret, il a été question de protection d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par protection? Donc, la protection s'entend par toute mesure prise pour assurer à la jeune fille l'instruction, la santé et la sécurité.
Y compris la lutte contre les violences.
Y compris la lutte contre les violences. Maintenant, en ce qui concerne le soutien, c'est des mesures qui sont prises.
Et l'accompagnement.
Le soutien d'abord, c'est des mesures prises par l'État pour offrir à la jeune fille les conditions matérielles et psychologiques pour lui assurer un apprentissage décent. Donc, c'est de lui garantir les conditions matérielles et psychologiques pour qu'elle puisse suivre ses cours.
Comment est-ce que cela doit
concrètement, l'État va mettre à leur disposition tout ce qui est matériel et la préparation. L'État va leur garantir au niveau de ces écoles la sécurité, par exemple, pour qu'elles n'aient pas peur sur le chemin de l'école ou bien à l'école même, qu'elles n'aient pas peur d'être violentées.
Et si à la maison, elle a subi des pressions de la part de ses parents?
Bon, la pression de la part de ses parents, là, c'est au niveau familial. Le tissu familial, il est important aussi dans l'éducation de la fille. Parce qu'au niveau des établissements scolaires, c'est juste quelques heures que les filles là sont protégées. Elles sont prises en charge pendant peut-être une demi-journée. Maintenant, le reste, l'autre pan de leur éducation incombe à leurs parents. C'est leurs parents aussi qui doivent créer aussi d'autres conditions afin que leur éducation soit complète. Maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement, là, c'est des dispositions que l'État va prendre pour corriger les disparités, les inégalités qui sont constatées dans leur accès et leur maintien.
Comment s'est fait cette aussi, correction?
Par exemple, eux, ils ont parlé de rations ou les actions.
Vous parlez d'ASSO et PT?
Oui, je parle d'ASSO et PT, les différentes interventions qu'ils sont en train de faire au niveau terrain pour un peu amener les filles à fréquenter les écoles. De l'autre côté, la direction de la promotion de la scolarisation des filles a aussi mené des paquets d'activités pour amener ces filles-là à venir à l'école et à y rester le plus longtemps possible. Et pour cela, nous avons beaucoup de partenaires qui nous appuient dans ce sens-là. J'ai eu la chance de travailler, parce que c'est par rapport au retard que je vais répondre, j'ai eu à travailler depuis que je suis dans cette direction, donc j'étais arrivé au niveau de cette direction vers 2005, et depuis que je suis dans la direction, j'ai eu la chance de travailler dans un comité qui a travaillé sur ces textes-là. Et en 2012, l'État avait, à travers notre direction, fait un projet de loi qui, au niveau de l'Assemblée, a été renvoyé en seconde lecture.
C'est vrai, il y a des progrès indéniables qui ont été réalisés.
Voilà.
On va
donc
en parler
dans la seconde partie. Quoi.
Hassan Amadou Soumana, représentant la direction de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire. Quelles sont ou quelles peuvent être les conséquences du faible taux de la scolarisation de la jeune fille pour un pays en développement comme le Niger?
Comme je l'avais dit tantôt, la femme constitue une frange importante de la population. Donc à cet effet, elle doit contribuer au développement du pays. Et sans éducation, je ne crois pas qu'elle puisse y réussir. Voilà le problème. Et les conséquences, elles sont nombreuses, parce que la femme, quand elle n'est pas éduquée, le cas de Maradi, par exemple, ils ont parlé, la femme vient de parler de cas de mariage précoce, et elle peut être exposée à des maladies, notamment les fistules. Et rien que pour sa propre santé, elle a besoin d'éducation. Elle a besoin d'éducation aussi pour pouvoir accompagner sa famille.
Hassan Amour Soumana, est-ce que le chômage des jeunes filles diplômées ne constitue pas un facteur décourageant pour la scolarisation de la jeune fille?
Effectivement, au niveau des missions terrain, des fois on nous dit que ce qui décourage, c'est le chômage des aînés. Les aînés, c'est qui? C'est les filles qui ont pu, ou bien les frères à ces filles-là du primaire qui sont allées au collège, mais qui après ont été renvoyées. Donc, pour cela, il faut que l'État prenne des dispositions pour les caser quelque part. Et à travers ce décret pris en Conseil des ministres le 5 décembre 2017, il y a des dispositions pour leur garantir cela. Parce qu'il y a des centres de formation qui seront là pour pouvoir recueillir tous ceux qui seront rejetés au niveau du secondaire. À travers ce décret toujours, il y a des dispositions qui seront prises pour que les chômages des diplômés ne soient plus un frein à la scolarisation des filles.
Avant ce décret, est-ce qu'il existe des instruments juridiques qui encadrent la scolarisation de la jeune fille?
Bon, avant ce décret, effectivement, notre document de référence, c'est le code pénal. Le code pénal, puisque quand vous abusez d'une fille, il suffit seulement d'approcher les juridictions pour que l'État, à travers ces juridictions-là, prenne des dispositions pour sanctionner l'auteur, le co-auteur et le complice. On a vraiment des structures à travers la justice. Tout récemment, on a été saisi de cas au niveau de Maradi même, où il y avait une fille qui avait été abusée par un de ses parents d'ailleurs, et d'autres qui ont été abusés par des membres de la communauté. Et ces cas-là ont été présentés au niveau des institutions compétentes en la matière. Et c'est à travers l'une des institutions-là que la direction a été saisie. On nous a fait copie des correspondances qui ont été envoyer à ces institutions-là pour prendre en charge le relais afin que les auteurs et les complices soient sanctionnés.
Avant, si c'est les enseignants qui abusent de ces filles, l'enseignant lui aussi est remercié. Est-ce que maintenant cette pratique est en vigueur au Niger?
Est-ce que c'est réellement seulement les enseignants qui sont fautifs?
Madame Hadiza Aliou, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidamrougi, comment la scolarisation de la jeune fille peut être un facteur constitutif du progrès?
La scolarisation de la jeune fille est un très bon facteur parce que vous êtes sans savoir que la femme, comme l'a dit mon président, que la femme occupe plus de 50%. Et une femme éduquée, c'est comme si c'est une nation qui est éduquée. La femme, elle est appelée à être une mère dans le futur. Si cette dernière n'est pas éduquée, elle ne peut pas éduquer ses progénitures. Elle ne peut pas aussi prendre soin de son foyer, ni aussi celui de ses enfants. Donc vous voyez, là, c'est un énorme avantage. Une femme qui est éduquée, une femme qui a fréquenté l'école, comme vous avez dit qu'il y a des filles qui ont des diplômes, qui sont en train de chômer, je n'en dis qu'on vient pas, mais elles ont fréquenté. Et vous savez très bien qu'il y a des organismes qui viennent dans un village et cherchent quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est un avantage pour elles. Donc, vous voyez, troisièmement, les hommes de maintenant, comme on le dit, eux aussi, ils n'aiment pas les femmes analphabètes, excusez-moi du terme, qui n'ont pas fréquenté. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un avantage énorme. Et aussi pour la société, de nos jours, vous voyez, c'est les hommes qui partent de fois dans les communes, vous allez voir, c'est les hommes qui sont là en train de prendre, d'assister nos mamans aux accouchements. Si la femme fréquente l'école, ça serait un problème déjà réglé. Ce sont là d'énormes avantages que nous procure la scolarisation de la jeune fille.
Madame Hadiza Adama Aliou, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidamrougi, quels sont maintenant les efforts des autorités régionales dans le cadre de la promotion de la scolarisation de la jeune fille dans la région de Maradi?
En tout cas, si l'on prend le département de Guidamrougi, nous on est vraiment aidés. Le préfet est là, les maires sont là, et même les autorités comme la gendarmerie, la police, ils sont toujours là pour nous aider. Et parallèlement, nous avons des organismes, à savoir le CIED, le PAM à travers la AREN, le filier social, il y a l'UNICEF, il y a le PAEC qui nous aide et qui nous épaule. Par exemple, si on prend le PAEC, il nous aide en ciblant 5 à 6 établissements. Ils prennent 25 filles par établissement, par niveau. Ils les donnent des bourses à eux et à leurs tuteurs. Donc, vous voyez, avec l'UNICEF, on a eu même des motos pour nous permettre de sillonner, d'aller pour les sensibilisations. La mairie est là, elle nous épaule avec les centres. Et quand on a des problèmes du genre détournement de mineurs, mariage forcé, mariage précoce, surtout maintenant avec le décret présidentiel là.
Justement, à ce niveau, est-ce que vous pensez que ce décret-là n'est pas venu en retard?
Non, mieux vaut tard que jamais, je me dis. Parce que même sans avant, bien avant ça, on agit, mais quand même, on le fait sans pour autant avoir une source fondée. Donc, c'est vraiment très important. Le décret nous a vraiment aidés et ça nous avantage tellement. Et de là, dès qu'il y a un problème, nous, on avise le préfet, il avise la police.
Inoussa Sanegiori, représentant les ONG et associations qui militent en faveur de l'école pour tous, quels sont les défis liés à la scolarisation de la jeune fille au Niger que vous avez eu à répertorier?
Merci. Les défis sont énormes. Je vais d'abord parler d'un défi spécifique. C'est la dépravation des mœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un danger pour les filles. Et les parents, généralement, ils sont très réactionnaires par rapport à cet aspect. C'est d'ailleurs ça qui explique que les gens parlent de religion, mais au fait, ce n'est pas réellement une question de religion. C'est le danger encouru par les filles qui font que les parents marient leurs filles assez jeunes. Et cette question-là, elle ne sera pas facile à régler. Parce qu'il faut garantir la sécurité de la fille. Garantir qu'elle ne sera pas harcelée par quelqu'un. Vous comprenez? Ça, c'est un aspect assez important. Je ne sais pas comment l'État va s'y prendre pour pouvoir garantir aux parents cette sécurité totale pour que leur fille ne tombe pas en grossesse. Vous comprenez? Ça, c'est un aspect assez important parce que c'est surtout ça, j'ai dit, l'élément moteur qui fait que les parents marient leur fille à un âge assez bas. C'est cette question. Ils n'ont pas les moyens, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens en tout cas de subvenir à tous ces besoins. Donc, ils préfèrent, pour eux, la meilleure façon de sécuriser la fille, c'est de la donner en mariage. Elle va vous faire des enfants. Sinon, elle vous fera des enfants comme ça dans la rue. Et cette fille-là, c'est-à-dire que tout son avenir est compromis par rapport à cette question. Donc ça, c'est l'aspect fondamental. Et ça, je ne sais pas comment l'État va s'y prendre.
Et nous, ça, Sonjori, d'Asso et Pété, il est vrai que le Niger a enregistré un progrès certain en matière de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Quelle est la contribution de votre structure pour l'amélioration du taux de la scolarisation de la jeune fille?
Je disais tantôt, dans ma première intervention, que le rôle essentiel de Asso, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer en matière d'éducation, nous allons d'abord vers l'État, nous allons vers les PTF, nous allons à des rencontres internationales pour plaider le cas du Niger en matière d'éducation. Donc ça, c'est notre rôle essentiel. Donc il n'y a pas que la scolarisation de la fille. Je disais tantôt qu'il y a d'autres couches vulnérables qu'il faut aussi scolariser. C'est les handicapés, c'est tous les genres, tous les cas de handicapés, les aveugles, les handicapés locomoteurs, tout ça. Donc ceux-là là aussi, il faut songer, même les débiles, ceux qui ont un retard mental, il faut songer à pouvoir encadrer ces gens-là, même si ce n'est pas une éducation parfaite, mais en tout cas leur permettre de mieux vivre et d'être utile pour la société. Je veux vous raconter peut-être une petite anecdote.
Rapidement.
Rapidement, oui, il y a un monsieur qui est handicapé, il est né handicapé. Donc il ne peut pas marcher, même la parole est devenue un problème. Mais comme c'est en Europe, ils ont les moyens, ils ont mis les moyens qu'il faut, on lui a mis l'encadrement qu'il faut, les enseignants qu'il faut. Ce monsieur aujourd'hui est un grand conférencier international. Vous comprenez? Un grand conférencier international. Donc avec les moyens et la volonté, on peut tout faire. Et je pense qu'il n'y a pas de déchets humains dans la vie. Et quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une personne humaine, on peut la rendre utile.
Vous avez quelque chose rapidement à ajouter, Hassan Amadou Soumana?
Je vais réagir un peu par rapport à la préoccupation de M. Younoussa sur les parents, l'inquiétude des parents. Je crois que cette inquiétude n'est pas fondée, elle est levée dès lors que le décret le prend en charge. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a le code, les dispositions du code, notamment en ces articles 222A+, qui garantissent certaines dispositions, certains droits à la fille par rapport à ces harcèlements dont M. Younoussa avait tenté dont il a parlé tantôt.
Amadou Hassan Soumana, représentant la direction de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire, rapidement, proposez-nous des solutions pour une meilleure promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger.
Bon, pour une meilleure proposition de la scolarisation des filles, d'abord, il faudrait aller à la vulgarisation de ce décret, plus son arrêté d'application que nous sommes en train d'élaborer. Et de demain, on aura une séance de travail parce que nous avons sillonné les régions qui nous ont donné leur contribution par rapport à tout ce qui a été dit en ce qui concerne l'arrêté d'application du décret.
À quand la mise en application du décret?
Bon, la mise en application, elle sera effective dès la signature de l'arrêté. Donc, je ne peux pas me prononcer à la date exacte. Mais toujours est-il que, aussitôt que l'arrêté sera signé, le décret entre en vigueur.
Madame Hadiza Adam Alio, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guinamouji, vous avez certainement des propositions à faire, des pistes de solutions pour une meilleure prise en compte de la promotion de la scolarisation de la jeune fille, surtout à Maradi.
Oui, bon, concernant la scolarisation de la jeune fille, bon, je propose à ce qu'il y ait deux normes de sensibilisation à chaque instant que les médias interviennent pour sensibiliser la population, les filles, les filles. Les parents aussi doivent mettre un nœud sur l'éducation de la fille parce que ça ne sert à rien de mettre la fille à l'école et de vous ranger à la maison sans pour autant vous préoccuper de ce qui se passe. On a pas mal vu des parents qui amènent leur fille à l'école, mais ils ne savent même pas que cette fille-là a redoublé ou bien elle est même en quelle classe. Donc vous voyez, les parents doivent mettre un œil sur l'éducation de leur fille. Certes, l'école contribue, mais aussi on a besoin de leur aide. Parce que quand la fille quitte l'école, elle a des fréquentations. Ils doivent savoir avec qui la fille sort, elle fréquente qui sont ses amis. Mais aussi, il y a un fléau très important, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable empêche les filles d'étudier. Ils empêchent les filles. Étant à l'école, les filles passent tout leur temps à manipuler les téléphones portables. Et je pense bien que les parents doivent nous aider dans cette quête. On le fait pour leur bien et pour le bien des filles. Quand cette fille réussit, c'est eux et nous, mais y compris elle. Donc, c'est juste l'appel que j'ai à...
Et nous, Sassan Diori, d'Asso EPT, vos propositions de solutions pour une meilleure promotion de la scolarisation de la jeune fille au Niger.
Bien, merci. Et avant ça, je vais revenir un peu sur le décret. Le décret, c'est un décret. Et la mise en application de ce décret, c'est aussi autre chose. Nous avons vu au-delà du décret des lois qui sont prises, mais l'application devient un problème. Donc quand je parlais de cette fois-ci,
le représentant de l'État est rassurant quand même.
Bon, il a parlé du décret, je connais le décret. Mais j'ai dit l'arrêté d'application. Vous savez, autant de faits comptés. Vous avez parlé tantôt des cas des enseignants. Les enseignants qui engrossent les filles, ils les mettaient directement en prison. Mais cela n'a pas empêché que les enseignants continuent. Et c'est pour ceux qui ont ce genre de comportement, qu'ils continuent. C'est un comportement humain. Il n'y a pas que l'enseignant, n'importe qui peut avoir ce comportement-là, surtout s'il se retrouve avec ce genre de proximité, c'est-à-dire proximité avec les jeunes filles. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de pouvoir réunir les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en application ce décret-là. C'est ça ma préoccupation. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis que c'est une grosse préoccupation. Il faut assez de moyens pour pouvoir faire face à ce décret-là. Et je sais que l'État n'a pas que ce décret à mettre en application. L'État a plusieurs occupations. Et aujourd'hui, par rapport aux occupations, notamment concernant l'éducation, tantôt on a parlé des gens qui ont fréquenté, qui ont les diplômes et qui sont dans la rue. Est-ce que l'État peut réellement chercher le travail à tous ces gens-là? Ils sont là, ils continuent à chômer. Nous avons aujourd'hui la question de contractualisation. Il y a des gens qui sont dans la contractualisation, ça fait 10 ans, 15 ans. Est-ce que ces gens-là, ils vont finir leur vie en tant que contractuels ou bien leur situation va changer? Donc il y en a plein de choses. C'est pour ça que je dis le décret, c'est bon de prendre un décret. C'est bon de pouvoir cerner certaines situations et de prévoir des solutions dans un papier. Mais cela ne suffit pas. Faudrait-il encore qu'on réunisse tous les moyens qu'il faut pour faire face à ça. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable aussi. C'est possible que ça soit faisable, mais pour l'instant, j'ai dit qu'il y a beaucoup de difficultés. Et je souhaite que toutes ces difficultés-là soient endiguées pour que les filles participent massivement, qu'elles soient massivement inscrites à l'école, qu'elles soient instruites et qu'elles puissent trouver aussi un emploi. Parce qu'effectivement, les femmes sont un véritable moteur de l'économie. Si les femmes arrivent en tout cas à être éduquées et en grande quantité, il est évident que le système économique du Niger va vraiment va être propulsé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bon pour nous. Ça va nous permettre en tout cas d'endiguer beaucoup de problèmes que nous avons, notamment les problèmes économiques.
Vous avez quelque chose à ajouter rapidement à Hassan Amadou Soumana?
Monsieur Inous vient de faire référence à certains articles et lettres circulaires. Et ici, nous avons un décret. Un décret, il est au-delà de l'article ou de la lettre circulaire ou bien d'un arrêté. Donc ici, le décret, dans son sens, garantit la protection, le soutien et l'accompagnement. Donc tout ce que M. Younous vient de lever comme inquiétude, en réalité, sera pris en charge au niveau de ce décret.
Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Hassan Amadou Soumana, représentant la direction de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire. Nous étions également avec Inous Hassan Diori, il est le représentant des organisations et associations qui militent en faveur de l'école pour tous, ASSO-EPT. En ligne depuis Guidamourougi, région de Maradi, nous étions également avec Madame Adiza Aliyo Adam, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Guidamourougi. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.